fondement de l'éthique dans l'islam. Les êtres humains sont faits à l'image de Dieu, d'où leur potentiel moral et intellectuel. Selon la sourate 33, 72, Dieu a proposé la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont eu peur et l'ont refusé. Seuls les humains se sont montrés disposés à l'accepter. En d'autres termes, la morale est un attribut spécifiquement humain. C'est pourquoi la morale est aussi centrale dans l'islam. Les anges, eux, ne peuvent pas pécher et n'ont en conséquence pas de choix moraux à faire. Satan est une exception unique. Voir chapitre 7. L'action morale n'est pas toujours la plus facile à faire, car Satan et les mauvais esprits, les djinns, interviennent pour tenter les hommes et les femmes et les amener à faire le mal. Selon l'islam, les êtres humains ont la capacité de choisir le bien et d'éviter le mal. Le Coran a clairement une optique moraliste. Il condamne explicitement, par exemple, les habitants de la Mecque pour la manière dont ils traitent les pauvres. Sourate 107.3 et les orphelins. Sourate 17.34 et 93.9 pour la fraude dans leurs affaires commerciales. Sourate 17.35. Voici six principes de base de l'éthique musulmane. Toute action a une signification morale. La formule la plus souvent citée par les moralistes musulmans est sans doute celle qui est tirée de la sourate 3, 104, qui dit que la communauté musulmane doit appeler au bien, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ce principe d'appeler au bien et d'interdire le mal est une lumière qui doit servir de guide. Les règles spécifiques sont importantes, mais il est nécessaire de faire preuve de discernement pour appliquer correctement les règles, ou le principe général du bien faire. Les actions morales sont celles qui ont comme conséquence la justice. Sourate 4, 58. Dans des circonstances concrètes, une action peut impliquer des conséquences à la fois bonnes et mauvaises. On doit alors choisir l'action qui maximisera le bon et réduira le mal au minimum pour parvenir au plus haut degré de justice possible, selon l'éminent juriste du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah. La foi et les œuvres, les actes, sont toutes deux nécessaires. La sourate 2, 25 dit « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure le paradis ». Les choix moraux que chacun fait sa vie durant sont importants dans la mesure où ils déterminent le destin ultime de la personne, le ciel ou l'enfer. Les intentions sont aussi importantes que les œuvres, ce qui est également vrai pour les actes du culte. La sincérité est une attitude intérieure fondamentale. Le trio du cœur, de la parole et des actes est fréquemment mentionné. Chacun convient qu'il ne suffit pas de prôner le bien, action de la langue. Encore faut-il agir en conséquence. Selon l'islam, une action faite simplement pour se conformer à un code extérieur n'est pas aussi bonne que celle qui vient du cœur. Ce qui vient du cœur transparaîtra en parole et en acte. Si des circonstances extérieures empêchent l'accomplissement de l'action, l'intention du cœur n'en demeure pas moins bonne. Pour agir de façon morale, il est tout aussi important d'avoir une personnalité morale bien construite, intégrant les vertus telles que la sagesse, le souci de la justice, la modération et la volonté de se garder de vices tels que la convoitise, l'avarice et la colère. Dans la plupart des situations, les gens agissent instinctivement, en accord avec leur personnalité de base, plutôt qu'à partir d'un ensemble de règles. Le grand théologien du XIIe siècle, Al-Ghazali, a écrit abondamment sur l'art de cultiver la vertu et d'éviter l'inclination au vice. La sourate 5, 105 dit « Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. La personne qui s'est égarée ne peut pas vous blesser si vous êtes correctement guidés. » Se garder de tout extrême, suivre le chemin de la modération, la voie de l'équilibre. Il ne sert à rien d'être arrogant ou de chercher à s'élever aux yeux des autres. La sourate 31, 18-19 dit « Ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Dieu n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse la voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Selon la tradition, Mohammed a dit « Vous n'êtes pas un vrai croyant si vous ne souhaitez pas pour vos frères et sœurs ce que vous souhaitez pour vous-même. » Cette règle d'or se retrouve dans toutes les religions, notamment dans le judaïsme, le christianisme, le confucianisme et bien d'autres encore. Texte sacré. Il est exact que l'islam n'a rien d'équivalent aux 10 commandements issus du judaïsme, mais plusieurs textes coraniques récapitulent les conditions morales fondamentales. Selon la sourate 23, 3-11, ceux qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de l'aumône et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou celles qu'ils possèdent de la main droite, les esclaves, car là vraiment on ne peut les blâmer, mais ceux dont les désirs vont au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, qui observent strictement l'obligation de la prière, ce sont eux les héritiers qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. La sourate 70, 22-35 énumère également les bonnes et les mauvaises actions. Texte sacré. Dans son serment d'adieu prononcé lors de son dernier pèlerinage à la Mecque en 632, Mohammed a laissé un récapitulatif des obligations morales qui incombent aux musulmans. Outre le culte et d'autres engagements, il a mentionné les devoirs suivants. Rendre tout bien appartenant à d'autres. Ne pas blesser qui que ce soit. Ne pas réclamer d'intérêt sur l'argent prêté. Les maris doivent bien traiter leur épouse, car ils font équipe avec elle. Se garder de lier amitié avec des personnes mal intentionnées. Ne pas commettre l'adultère. Comme dans toute religion, au-delà des prescriptions morales spécifiques contenues dans les Écritures saintes, il existe d'autres sources sur lesquelles les croyants peuvent s'appuyer pour savoir comment se comporter en bon musulman. Le Coran est naturellement la principale source de la morale, avec ses lois explicites et ses principes moraux. Les traditions, hadiths, prodiguent des conseils basés sur les paroles et les actions de Mohammed. Les écoles juridiques de l'islam, en recourant à l'analogie et aux autres techniques de l'argumentation, déduisent des directives morales supplémentaires à partir du Coran et des hadiths. Les vertus arabes pré-islamiques, telles que l'honneur, le courage, la fidélité, l'hospitalité, le sang-froid et la résistance, continuent à être importantes dans l'islam. Certaines figures de l'histoire islamique, telles que les quatre califes bien guidés et Fatima, écoutez chapitre 4, fournissent des modèles éminents. La réflexion philosophique sur les questions de justice et d'éthique faite par les Mu'tazilites, écoutez chapitre 4, et d'autres mouvances ont permis d'approfondir certaines questions morales. Les travaux des philosophes moralistes grecs, traduits en arabe, constituent une autre source précieuse. Les attributs de Dieu et ses 99 noms, écoutez chapitre 5, fournissent un modèle de comportement à imiter par les musulmans. Ces noms, tels le doux, le reconnaissant, le juste, le généreux, l'équitable, l'aimant, etc., sont autant de manières d'être à imiter. Le soufisme, écoutez chapitre 14, cultive un ensemble de valeurs morales, notamment l'humilité et la pauvreté. Les ouvrages d'adab sont des codes de déontologie, de bonnes pratiques, comme on dirait maintenant, adapté à telle ou telle profession et destiné à tout musulman concerné. Ils ne datent pas d'aujourd'hui et de nouveaux sont sans cesse publiés. On trouve par exemple des guides de conseils pour les rois sur la façon de gouverner ou pour les médecins sur la façon de s'occuper des patients. En littérature, l'adab est un genre littéraire qui a une visée moralisatrice. Certains péchés sont plus graves que d'autres. Comme d'autres religions, l'islam identifie des niveaux de gravité différents dans le péché. Les péchés graves sont ceux qui sont le plus susceptibles de conduire en enfer au moment du jugement dernier. Pour les musulmans, pour qui cette vie n'est qu'un prélude à ce qui vient après la mort, il est essentiel de faire la différence entre les péchés graves et ceux qui le sont le moins. Le grand théologien du XIIe siècle, Al-Ghazali, a discerné plusieurs degrés de gravité dans les péchés, qu'il a définis ainsi, sachant que d'autres théologiens peuvent adopter une autre catégorisation. Les péchés les plus graves sont l'incroyance en Dieu, kufr, et l'idolâtrie, shirk, qui consiste à associer autre chose à Dieu ou à adorer plusieurs dieux. Sourate 4, 48. Ces deux péchés sont souvent considérés comme impardonnables et peuvent envoyer quelqu'un en enfer pour l'éternité, ou, selon la grâce de Dieu, pendant un temps très long. Les deuxièmes péchés en importance sont ceux qui vont contre la vie et la famille, par exemple le meurtre et l'adultère. En troisième rang viennent les péchés d'appropriation indue de biens. Les péchés de deuxième et de troisième rang peuvent valoir à un musulman de passer un temps plus ou moins long au premier stade de l'enfer, le moins pénible. Cependant, celui qui s'est montré sincèrement croyant pendant sa vie finira par aller au ciel. La quatrième catégorie englobe tout le reste, y compris la consommation d'alcool et le mensonge. Sans aller jusqu'à dire qu'ils sont sans importance, ces péchés ne sont pas de nature à empêcher un musulman d'aller au ciel au jour du jugement dernier.